France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Allez, on commence par le côté festif. La Belgique, 1 point. Belgium, 1 point. Luxembourg, 2 points. Le Luxembourg, 2 points. Je ne vais pas vous faire le coup jusqu'à 12, mais quand on était petit avec mon frère, le soir de l'Eurovision, on voulait entendre tout ça. On avait le droit de veiller très tard. Très très tard, la soirée était interminable. On faisait des grilles, figurez-vous, avec nos votes, et c'était extrêmement sérieux. Aujourd'hui, on ne fait plus de grilles, mais la Madeleine de Proust est restée. Et d'ailleurs, samedi, évidemment, on va s'appeler. L'Eurovision, pour nous les Français, c'est ce moment qu'on se plaît à trouver parfaitement kitsch, tout en se demandant pourquoi on n'a rien gagné depuis Marie-Myriam, alors qu'en fait, on a toujours la meilleure chanson. Pour d'autres, notamment en Europe du Nord, l'Eurovision, c'est la Coupe du Monde. On ignore ça, nous, en France, et on vous expliquera d'ailleurs pourquoi, mais la plupart des chanteurs, une fois sélectionnés dans leur pays, doivent passer par des phases éliminatoires pour être enfin sur la liste de ceux qui gagneront, qui chanteront à la grande soirée. Donc en fait, c'est une finale. Les chanteurs, et c'est le cas de notre Slimane cette année d'ailleurs, font la tournée des pays de l'Eurovision pour se faire connaître, pour se faire aimer. L'Eurovision, pour certains, ça commence dès l'automne. Alors on peut regarder cette compétition au 18e degré, si on veut. On peut la regarder au 1er degré, pour la musique. Certains la voient également comme une soirée qui fait beaucoup pour la communauté LGBTQIA+. C'est même un Super Bowl queer, a-t-on entendu ici et là. Faut-il rappeler que la première trans à gagner, c'était Dana International, c'était en 98, et je vous le pose là quand même, elle était israélienne. Le seul drapeau admis d'ailleurs en dehors de ceux des compétiteurs, c'est le drapeau arc-en-ciel. Certains y voient aussi un exercice géopolitique de haut vol, voire une réunion de l'ONU qui tourne mal. Souvenez-vous de la victoire de l'Ukraine, là c'était un hommage. Aujourd'hui, la chanson israélienne provoque manifestations et sifflets, et ce sera pas facile à gérer. On verra ça samedi. En tout cas, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Zoé, c'est vous la première. Bonsoir Zoé.
Bonsoir.
On vous écoute Zoé.
Alors, je voulais partager un petit peu mon point de vue sur l'émission. Moi, je suis une grande fan de l'Eurovision depuis toujours. Et c'est vrai que ça a toujours été un peu un sujet de moquerie quand j'en parle et que je dis ouais, que moi, j'ai hâte de regarder l'émission tous les ans. Et je trouve que c'est un sentiment vraiment franco-français de regarder l'émission avec un peu de moquerie et d'attendre de voir vraiment le côté le plus kitsch, la personne qui va avoir le pire, entre guillemets, de la soirée. Et j'ai vécu en 2016, j'étais en Erasmus en Suède, à Stockholm, et j'ai eu la chance de pouvoir vivre justement toute cette semaine, puisque comme vous l'avez dit, nous on voit la finale, mais on ne voit pas tout ce qui est derrière, tout ce qui est préparatif, tout ce qui est vraiment grande fête. Et moi je l'ai vraiment vécu comme une fête européenne. J'ai trouvé ça génial, puisqu'il y a vraiment des gens de tous les pays d'Europe qui se rejoignent, qui font vivre cette festivité pendant une semaine. Et c'est vraiment un sentiment vraiment d'appartenance européenne que j'ai trouvé vraiment génial.
Et alors, Europe, et même au-delà d'ailleurs, hein, parce que c'est pas seulement justement les pays européens, la Suisse, la Géorgie, l'Australie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, évidemment, on y viendra à tout ça. Zoé, je peux vous demander quel âge vous avez ?
J'ai 30 ans.
Ok. Parce que je suis en train d'essayer de réfléchir, il y a eu une période, je vais parler sous le contrôle de notre invité, mais il y a eu une période où on a tellement boudé qu'on a arrêté de le retransmettre, ou en tout cas on l'avait déplacé, puis on y est revenu. Donc je me demandais à quel moment vous arrivez, vous Zoé, en fait, ou est-ce que c'est vos parents qui vous l'ont transmis ?
Alors déjà j'ai commencé à regarder au centre du foyer familial, mais je pense pas que ce soit une passion qui soit venue. je sais pas d'où ça sort réellement, mais je trouve qu'elle est là, cette passion, et qui a été vraiment encore plus amplifiée, on va dire, pour l'avoir vécu entre guillemets en vrai. Et je suis très triste de pas avoir pu avoir de place cette année. J'ai passé une demi-journée à attendre sur le site pour avoir des places. Mais donc il y a des gens qui aiment.
Eh ben, tant mieux. Et vous en faites partie. Et merci beaucoup. Ça fait une belle entrée en matière, parce qu'on parlera d'autre chose. Mais c'est important qu'on parle aussi de ce moment-là. Je vais vous présenter les gens qui sont ici autour de cette table. Ou un peu plus loin d'ailleurs. Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien là. Vous êtes chercheur au CEVIPOF. Et l'une de vos spécialités, c'est bien ça, l'Eurovision. Julien Baldacchino est là également. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France Inter. Vous la couvrez pour nous, cette Eurovision. Florent Parmentier, moi, ce que je trouve intéressant, c'est Joé, effectivement, c'est qu'elle dit, c'est vraiment un sujet de moquerie. Mais c'est vrai qu'on c'est un plaisir honteux, en fait, pour nous les Français. Est-ce qu'on est les seuls à avoir un plaisir honteux dans le monde de l'Eurovision ?
Non, il faut voir que c'est d'abord un grand spectacle. C'est un spectacle qui va réunir de 160 à 200 millions de téléspectateurs, ce qui est considérable. C'est le plus grand concours de ce type. Et c'est à ce titre, en fait, qu'il est intéressant de regarder un peu l'Eurovision. C'est-à-dire que c'est un révélateur, en quelque sorte, des identités européennes, de la manière dont les Européens se présentent et se représentent. Mmh. Ce qui avait été très bien dit par l'auditrice, je trouve, c'est ces deux choses. La première, c'est une fête européenne. Effectivement, depuis 1956, c'est quelque chose qui rassemble l'ensemble des Européens chaque année, en dehors d'une année Covid qui a vu une interruption. Mais 1956, c'est ce moment de l'histoire européenne très intégrateur. C'est l'intégration européenne qui domine. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement hasard. Mmh. Cet État commence l'Eurovision en 1956. Six d'entre eux, une année plus tard, signent le traité de Rome, à l'exception de la Suisse. Et puis, je crois que l'auditrice a mentionné Stockholm. Bon, Stockholm, c'est l'Europe du Nord. L'Europe du Nord est particulièrement
la Suède. Ah bah, c'est vraiment un truc d'Europe du Nord, en fait.
Le champion, effectivement, avec l'Irlande, en termes de nombre de victoires. Cette victoire pour Stockholm, mais cette année particulièrement pour la Suède, la Suède fête ses 50 ans de victoire de Waterloo, qui avec ABBA était devenue ensuite une référence internationale.
On dit même que si la Suède a gagné l'année dernière, c'est pour qu'on puisse organiser les 50 ans de la victoire d'ABBA cette année en Suède, puisqu'on va chez le pays organisateur. Julien Baldacchino, moi je voudrais revenir un peu là-dessus. Comment ça se fait qu'on plisse le nez, nous? Parce que, disons-le franchement, on plisse le nez, nous les Français, quand même, sur l'Eurovision, non? C'est peut-être parce qu'on perd tout le temps.
Alors, on a beaucoup plissé le nez pendant les années 80, 90, 2000, au point qu'au début des années 80, l'Eurovision a même cessé d'être diffusée à la télé française pendant un an, parce que le patron à l'époque de TF1, qui était encore une chaîne publique, avait décidé que c'était un rendez-vous qui n'était pas culturellement à la hauteur. Donc, on s'est beaucoup effectivement pincé le nez sur l'Eurovision. Depuis quelques années, on revient sur l'idée d'en faire un rendez-vous télévisuel, parce que c'est quand même avant tout un rendez-vous télévisuel populaire. Parfois, de demander au public, d'ailleurs, de choisir le candidat ou la candidate ou le groupe qui va représenter la France.
Et, on a rarement eu du pif, quand même, il faut être honnête, hein, Julien.
On s'est beaucoup trompé, mais il n'y a pas de recette miracle, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais de plus en plus, on revient avec l'idée qu'on y va pour la gagne, en fait, et qu'on y va pour ne pas être ridicule.
Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne, Florent Parmentier? Est-ce que c'est aussi que ce concours, il a bougé, il a tourné, c'est devenu aussi une vitrine LGBT, donc ça a véhiculé des choses qui avaient vraiment du sens? Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on y retourne? Parce qu'on a fini par comprendre que c'était pas que kitsch, en fait, qu'il s'y passait des choses.
D'abord, je crois à l'importance du rituel. Vous mentionnez tout à l'heure, effectivement, le fait d'avoir grandi avec le fait de savoir qui allait marquer 12 points. Donc, c'est cet élément de suspense, je pense, qui fait qu'on y retourne. L'autre élément est peut-être un élément complémentaire du réinvestissement français dans l'Eurovision. C'est que Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, en 2015,
absolument,
avait effectivement lancé l'idée selon laquelle, puisque ce genre de concours existe et que ça... pour beaucoup d'États européens, c'est un rendez-vous important, populaire, etc. Montrer en quelque sorte une forme de dédain aristocratique n'est pas de nature à nous attirer, une image d'un pays accueillant, festif, etc. Donc il y avait cette volonté de participer, et en tout cas de participer avec non seulement la volonté d'en faire une vitrine, une vitrine parce que linguistiquement la France fait partie de ces États qui a toujours chanté soit en langue française, soit en langue de France. Et c'est une minorité aujourd'hui d'États qui chantent dans leur langue nationale.
Absolument.
L'Italie a à peu près la même politique, l'Espagne globalement aussi.
On a d'ailleurs un auditeur, peut-être qu'on l'entendra tout à l'heure, qui le regrette, qui dit mais pourquoi les gens ne chantent plus dans leur langue d'origine? C'était ça aussi l'Eurovision. Donc désormais, ça veut dire que c'est un produit qu'on...
C'est un élément très intéressant.
La chanson qu'on va chanter.
Je pense que, d'abord, ça a été une règle tacite. Pays chanter dans leur langue. Ce qui fait qu'au début des années 60, fin des années 50, vous avez des Eurovisions dans lesquelles la moitié des chansons sont en français. Ça s'explique très simplement, puisque la majorité des États qui étaient concernés étaient ouest-européens. Donc si vous avez des Suisses, des Luxembourgeois, des Français, des Belges en majorité, eh bien forcément le français a un peu plus de visibilité. Ensuite, un candidat suédois a pris risque de chanter en anglais, alors que ce n'était pas prévu. On est venu à une règle plus stricte. Et ensuite, on a alterné entre des règles vraiment de chanter dans sa langue nationale et des règles plus libérales, en quelque sorte, avec un choix.
Qu'aurait été le Waterloo d'ABBA s'il avait été chanté en suédois? Olivier, bonsoir.
Bonsoir, Fabienne.
Soyez le bienvenu, Olivier.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On vous écoute.
Alors ben moi je suis fan de l'Eurovision depuis très très longtemps. Moi j'ai mon premier souvenir en tant qu'enfant, la victoire de Sandy Shaw, la chanteuse aux pieds nus, la première victoire du Royaume-Uni donc en 67. Et puis donc je vis en Moselle, je vis à Metz, et puis on est très très proche de Luxembourg. Et puis cette année là, le retour du Luxembourg à compétition de l'Eurovision, je trouve que c'est vraiment pas mal après plus de 30 ans d'absence.
30 ans paraît-il, ouais.
Et puis des moments, je trouve qu'il y a aussi des artistes extrêmement sympathiques qui ont participé à l'Eurovision. Il y a beaucoup de grandes stars qui ont participé, qui n'ont pas gagné, comme Serge Lamane, Anna Mouskouri, etc. Et puis aussi une chanteuse très avec beaucoup d'émotions qui avait gagné en 69, une année où 4 pays avaient gagné le concours. Avec Frida Bocara, un jour un enfant. Et puis bien sûr, bon, Franck Gall qui a défendu les couleurs du Grand Duché de Luxembourg en 65. Donc il y a plein de choses comme ça. Puis je trouve que c'est une fête également, l'Eurovision. C'est une fête, il y a quelque chose d'extrêmement festif, d'extrêmement... en même temps, c'est vrai, un petit peu pop, et puis en même temps un petit peu kitsch. Donc ça, c'est un joli mélange, je trouve.
En effet, c'est un mélange détonnant et à plusieurs titres. Olivier, je vous remercie beaucoup. Je sais que Stéphane Baird est en train de nous écouter, on va le prendre dans un instant, parce que c'est lui qui présente à nouveau. Je voudrais juste, Julien Baldacchino, me tourner vers vous une petite seconde. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il n'y a pas de milieu avec l'Eurovision, en fait. Soit on est comme Olivier, et alors on est une encyclopédie, soit ça nous, on passe complètement à côté.
Alors,
vous êtes dans la catégorie encyclopédie, Julien, je tiens à le préciser.
Pas au même point qu'Olivier, je pense. Mais non, alors il y a quand même un milieu, je pense, qui existe de plus en plus, qui est en fait les gens qui ne sont pas des fans absolus de l'Eurovision, mais pour qui la soirée de l'Eurovision, ou même désormais les demi-finales, parce qu'elles sont diffusées aussi à la télé en France, sont un excellent prétexte pour se retrouver entre amis et pour commenter, pour partager un repas. Et en fait, c'est aussi un moment, comme ça a été dit à plusieurs reprises, un moment de fête, un moment autour duquel on s'amuse entre amis, même si on n'a pas écouté toutes les chansons avant, même si on n'est pas dans cette idée-là de suivre le concours complètement. C'est aussi ce qui fait le sel de certaines compétitions sportives, de certains moments de télé qui font qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on commente.
Mais bonsoir Stéphane Baird.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, parce que je sais que vous êtes arrêté sur la route pour nous, c'est sympa. J'espère que vous êtes bien prudent, vous co-présentez l'Eurovision depuis 2015, avec Laurence Boclini, avec Nick Idol cette année. On était en train d'en parler, Stéphane Baird. Moi j'ai l'impression qu'on a un vrai rapport ambigu à l'Eurovision, en fait. On boude, mais on aime ça, on sait pas trop. En fond, c'est peut-être parce qu'on sait pas s'il faut le prendre au premier ou au 18e degré, on n'a toujours pas tranché.
Vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'il faut prendre à tous les degrés. Il y a un premier degré de lecture qui est celui des fans et il faut le respecter. D'ailleurs, les eurofans sont très nombreux à venir de France et à se rendre à Malmö. Et puis, il y a évidemment le petit côté un peu moqueur de tous les copains, comme disaient vos auditeurs, les copains qui se rassemblent pour regarder la soirée et ils ont envie au moment des votes qu'on se moque un peu. Qu'on se lâche un peu avec Laurence Boccolini, qu'on commence à raconter, parler des tenues, de la coupe de cheveux et de tout ce qui fait le folklore aussi de l'Eurovision. Mais voyez-vous, moi ce que je retiens, c'est que il y a tellement de choses qui nous divisent en Europe, mais il y a aussi beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. C'est le deuxième événement fédérateur en Europe après la Coupe d'Europe de foot. C'est l'Eurovision, 250 millions de téléspectateurs. Et j'écoutais Olivier attentivement parce qu'étant franco-luxembourgeois, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup, avec Anne-Marie David et Xavier Bettel, l'ancien Premier ministre de Luxembourg, on a bataillé pour que Luxembourg revienne 31 ans après. C'est que on a envie, vous voyez, de que tous ces pays se retrouvent, chantent. J'aimerais qu'on mette la politique de côté, qu'il n'y ait pas de message comme ça perturbateur. Parce que c'est une fête, ça doit être une fête de la chanson, même si la chanson n'est pas toujours bien honorée par certains pays, il faut bien le reconnaître.
Alors là-dessus, puisque vous y avez été, Stéphane Baird, c'est vrai que c'est difficile d'éviter l'éléphant dans la pièce. Évidemment que c'est une année très particulière. On a bien vu ce qui s'est passé là, cet après-midi à Malmö, avec des gens qui disent qu'il faut supprimer la chanson israélienne. On a vu qu'elle avait été refaite 3 fois. Est-ce que vous avez le sentiment que le concours cette année est toujours politique, hein, mais prisonnier de la politique internationale?
C'est-à-dire que la politique internationale s'invite toujours dans le concours de l'Eurovision. Il y a eu les histoires de la Russie, si vous voulez. Sauf que ce qui décide de l'Eurovision, c'est l'UER. À partir du moment où où les radios-télévisions qui diffusent sont des respectent les règles, comme Israël et les autres pays, il n'y a aucune raison de l'interdire. En revanche, la Russie, on sait très bien que la télévision publique ne respecte pas les règles qui sont imposées par l'Union européenne de radio-diffusion. Donc, je crois qu'il faut respecter les règles, sinon on ne va plus pouvoir jouer au foot, on va plus pouvoir chanter et la politique va tout envahir.
Avant de vous laisser, parce que je sais que vous devez partir, je voudrais qu'on finisse sur une note plus festive. Est-ce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron vous envoyait des SMS quand l'Italie gagnait devant Barbara Pradi, c'était en 2021, je crois ?
Oui, c'est vrai que... parce qu'on était évidemment, on était tous excités de voir Barbara Pravi gagner. Puis au dernier moment, évidemment, il y a l'Italie et puis avec cette polémique sur est-ce qu'ils étaient en train de faire des
cocaïne
sous la table, voilà. Et donc le président m'a envoyé un message, non mais il faut se battre pour que Barbara Pravi gagne, il faut faire quelque chose, mais quoi ?
Mais en même temps, c'est ça que je trouve. Mais moi, je trouve ça fascinant quand même parce que on a un Laurent Fabius en 2015 qui dit faut qu'on retourne dans le concours. On a un Emmanuel Macron qui vous a derrière, on est dans l'instrument de soft power, je dis ça extrêmement sérieusement, Stéphane Bern.
Oui, mais c'est très juste, c'est très juste. Vous savez, il y avait Clément Beaune, d'ailleurs, ministre de l'Europe, qui est fan de l'Eurovision, qui était là. Si Luxembourg revient, c'est parce que Xavier Bettel était fan de l'Eurovision et y assiste chaque année. Évidemment, c'est du soft power parce que, en plus, on envoie un message très important, celui de Slimane cette année, c'est une très belle balade, une chanson d'amour. Il est très populaire en France. On a envie. Alors maintenant, il faut qu'il. Vous savez que les Français ne peuvent pas voter pour leur propre chanteur.
Non.
Donc ce sont les. On doit se faire aimer des autres en quelque sorte. Mais évidemment, c'est du soft power. Évidemment, les hommes politiques. C'est la première année où je dois le souligner, où une ministre de la Culture envoie un tweet pour souhaiter bonne chance à l'Eurovision. Parce que autrefois, j'avais le sentiment que les politiques se bouchaient un peu le nez. C'est-à-dire au dernier moment, si on était bien placés, ils se mobilisaient. Mais avant, on regardait ça avec un peu de distance, vous voyez. On voulait pas trop... C'est une fête populaire, je sais que les familles se retrouvent. C'est aussi très gay-friendly, il faut bien dire les choses. Et d'ailleurs, je suis très content que, pour la première fois, il y ait quelqu'un de non-binaire qui représente l'Irlande. Voilà, c'est un signe d'ouverture, un signe d'évolution de la société aussi. Et je crois que l'Eurovision est là pour montrer ses avancées.
Stéphane Bern, merci beaucoup. On vous laisse à votre journée à Malmö. On vous écoutera. Moi, je serai là, je donnerai des notes aussi, comme d'habitude, puisque c'est mon habitude. Merci beaucoup. 12 points. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Florent Parmentier, je voudrais revenir sur une chose que disait Stéphane Bern pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous envoient des messages sur WhatsApp en disant, de toute façon, l'histoire d'Israël, je ne vois pas pourquoi Israël est là-dedans, puisque l'Israël n'est pas un pays européen. Il n'y a pas qu'Israël, hein. L'Ukraine n'est pas européenne, l'Azerbaïdjan n'est pas européenne, l'Australie n'est pas européenne, la Géorgie n'est pas européenne, la Suisse n'est pas européenne, il y en a d'autres. Il faut juste nous raconter en un mot ce qu'on appelle l'UER, Union Européenne de Radiodiffusion, n'a rien à voir avec l'Union Européenne.
Exactement. Et d'ailleurs, s'il fallait reprendre ça, l'UER, en tout cas le concours de l'Eurovision, existe, enfin, a préexisté à l'Union Européenne et à la Communauté Politique Européenne, donc du traité de Rome en 1957. Donc à partir de là, on peut considérer que dès le départ, on était en dehors, effectivement, de cet élément-là. Comment expliquer, effectivement, ce point ? L'histoire de l'Eurovision, depuis 1956, c'est l'histoire de son élargissement. C'est l'histoire de son élargissement, d'abord dans ses participants, d'un concours ouest européen. On a vu, bien qu'il y a eu par étapes successives, et en réalité, 1956, il y a 7 participants. Dès l'année d'après, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Autriche se joignent.
C'est ouvert tout le temps.
Et dès 1961, on a à la fois d'ailleurs un cas intéressant. On a la Finlande qui rejoint l'Espagne, donc beaucoup de participants, disant sûrement, est-ce qu'il faut vraiment aller en Espagne sous Franco, sous une dictature ? Est-ce qu'on tolère une dictature en sein ? Et la Yougoslavie. Donc on voit que l'histoire de l'Eurovision, c'est l'histoire de son... Israël arrive en 1973 dans ce moment-là. Il y a participé à ce moment-là. Il a gagné 4 fois l'Eurovision. Ouais. Donc c'est une histoire qui déjà s'inscrit, j'allais dire, dans une durée assez longue. Il faut voir également que le Maroc y a participé en 1980. Donc il y a eu effectivement une diversité de.
Le dernier rentré, c'est l'Australie, donc 2015. Effectivement, on est très très loin de l'Europe, même à vol d'oiseau. Galiléo est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Simplement comme... Ah ben, parfait. Comme prof polyvinaire, juste, j'ai exprimé mon soutien, comme beaucoup d'éditeurs, à la rédaction et aux équipes de journalistes, comme des techniciens France Inter qui, j'ai appris, se mettaient en grève ce dimanche. Sinon...
Non, ouais, mais Galiléo, on peut pas mélanger les deux, en fait. Oui. C'est perturbateur, oui, bien sûr. Ça sert à rien. Et allez-y, je vous écoute.
Pas de souci, oui. Non, c'était simplement comme éditeur.
Allez-y.
Moi, en Suède, je suis actuellement à Uppsala, comme étudiant Erasmus, et j'ai pu remarquer que parmi tous mes camarades suédois, c'était des grands fans de pop, ils faisaient beaucoup de karaoké, ils adoraient même depuis plusieurs mois toute cette montée en hype, en joie par rapport à l'événement de l'Eurovision, alors qu'en France, on n'a pas du tout cette même culture qui est plus ou moins partagée dans les pays scandinaves, et on embrasse plus une grande diversité de musique par rapport à ça. Mmh. Voilà, c'était mon sentiment,
merci
même
beaucoup.
En allant dans les soirées.
Merci Galiléo, on vous a entendu, merci beaucoup depuis la Suède. Julien Badakino, vous qui êtes à Malmö en ce moment. Tiens d'ailleurs, l'ambiance ressemble à quoi? Parce que justement, puisqu'on l'a évoqué, on sait bien qu'il y a des craintes, on va le dire comme ça, hein, autour de la chanson israélienne, donc il y a des mesures de sécurité, on va probablement être extrêmement vigilant à l'entrée. Ça ressemble à quoi l'ambiance à Malmö?
Alors c'est un petit peu particulier, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est la première fois que j'assiste à l'Eurovision, mais de ce qu'on m'en a beaucoup dit, l'Eurovision est toujours une fête dans la semaine qui précède, parce qu'effectivement, avant la grande finale du samedi, il y a des demi-finales, il y a des spectacles un petit peu partout en ville. Effectivement, là à Malmö, les conditions de sécurité font que les événements ont été resserrés sur des zones assez restreintes. Donc je suis allé tout à l'heure prendre un petit peu la température. On n'est pas sur des terrasses qui ont été interdites d'être sorties, comme ça avait été dit sur les réseaux sociaux. Il y a des terrasses, il y a des gens en terrasse. Il y a ce qu'on appelle l'Eurovision Village, qui est une sorte de grande fan zone, et qui, comme les fan zones des Coupes du Monde, a des conditions de sécurité drastiques. On ne peut faire rentrer aucun sac, petit, grand, moyen. Il n'y a pas de sac dans cette zone. Donc, effectivement, on est sur une ambiance sécuritaire un petit peu particulière. L'autre particularité, c'est que ça se passe dans une salle de spectacle qui s'appelle la Malmö Arena, qui est assez loin du centre, et que donc le public qui vient pour participer aux grandes soirées et pour voir le spectacle, il n'est pas dans le centre de Malmö. Donc la ville est aux couleurs de l'Eurovision. C'est un petit peu calme pour l'instant.
Un petit peu calme, c'est-à-dire que on sort d'une manif, hein, en même temps, Julien. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu calme, non?
Oui, alors jusqu'à il y a une demi-heure encore, on voyait les participants à la manifestation revenir avec leur drapeau, avec leur banderole de soutien. Effectivement, la manifestation en soutien au peuple palestinien et donc contre la participation d'Israël à l'Eurovision a réuni plusieurs milliers de personnes cet après-midi à Malmö. Après, voilà, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'effervescence à proximité de cette Eurovision Village et que plus on s'en éloigne, plus on revient sur une ville qui a des banderoles de couleurs, mais c'est à peu près tout.
Eh ben écoutez, j'espère que ça va monter quand même. Après tout, la finale, c'est samedi, hein. Il nous reste un peu de temps pour remuer tout ça. Rémi est avec nous. Bonsoir, Rémi.
Bonsoir.
On vous écoute, Rémi.
Oui, alors moi je voulais intervenir sur un domaine qui n'est pas du tout politique. Je trouve que le concours de l'Eurovision, depuis quelques années, a perdu quand même beaucoup de l'intérêt qu'il pouvait représenter en termes de pluralité linguistique ou autre. Parce qu'il y a la quasi-totalité des groupes représentant leur nation qui s'expriment en anglais, et je trouve que ça devient une mascarade, puisque au départ c'était censé représenter une pluralité culturelle, et ça n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Voilà, je m'en désole.
Eh ben merci Rémi pour votre remarque. Florent Parmentier, vous avez partiellement répondu, mais il parle de pluralité culturelle, Rémi. C'est vrai qu'à un moment, au tout début en tout cas, il y avait quelque chose d'une cérémonie folklorique. Enfin, c'est vraiment pas ça qu'on veut, en fait. C'est pas ça qu'en tout cas veulent montrer les pays. Et c'est compliqué de trouver le juste milieu finalement, peut-être aujourd'hui.
Il y a effectivement une tentation qui est à la fois de voir dans l'Eurovision quelque chose de très cosmopolitique. L'ensemble des États, 26 États européens qui sont représentés, qui ont le même temps de parole, qui ont le même nombre de voix, etc. Donc quelque chose de très égalitaire. Et puis, donc assez universaliste en quelque sorte dans son fonctionnement, et puis d'autres éléments où au contraire on essaie de faire ressortir des éléments plus spécifiques, propres.
Il y en a toujours, j'ai un souvenir de trois petites mamies, je crois qu'elles étaient russes d'ailleurs, c'était des russes, non?
Oui,
ouais, c'est ça. Ouais.
Mais si on regarde dernièrement, je trouve que ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu probablement dans les années 90, 2000, 2010, 10 en partie encore une domination assez nette de l'anglais, au moins dans les personnes qui participent, mais dans les vainqueurs, on a eu quelques exceptions. On a entendu du tatar de Crimée en 2016,
c'est
une des victoires, deuxième victoire ukrainienne. On a entendu du serbe en 2007, de mémoire. On a entendu finalement différentes langues. On a, contre toute attente, vu un vainqueur portugais, dont le style n'était pas du tout celui qu'on prête habituellement à l'Eurovision. C'est une chanson qui était plus dans une forme de chanson un peu nostalgique, etc., qui est très éloignée des canons traditionnels, avec lesquels on veut se lancer. Donc,
il y avait moi, je me souviens de celui des victoires portugaises. Il y avait une histoire derrière. Oui. C'était un jeune homme qui était malade, etc. Donc, il y a aussi toute cette
parce qu'il a transmis de l'émotion.
Ce côté-là, voilà.
Et
ils existent quand même à fond les ballons dans l'Eurovision, disons les choses clairement.
Dans une Union européenne où la première langue étrangère apprise à peu près partout est l'anglais, il y a une prime, effectivement, de ce point de vue-là, pour transmettre de l'émotion en anglais. Mais l'an passé, pour la première fois depuis un certain nombre d'années, le candidat finlandais a chanté en finnois.
Ouais.
Cha-cha-cha, et a fait une deuxième place, ce qui est un très bon résultat pour la Finlande, qui n'a gagné qu'une seule fois, et qui a terminé 3 fois dans son histoire avec 0 point. Le null point,
redoute. C'est rude, mais honnêtement, je veux dire, encore une fois, on a bien vu jusqu'à quel point un concours pareil pouvait être politique. Il y avait le moment où l'Ukraine gagne, effectivement, et pas seulement. Là, typiquement, par exemple, le fameux zero point, la chanteuse israélienne, quand un pays donnera des points à Israël, ça dira bien plus que ta chanson était sympa. On le sait bien, ça, et ça risque de marquer aussi ce concours-là, non, Florent Parmentier.
Oui, il faudra voir qui donne des points.
Bah oui.
En l'occurrence, alors qui donne des points dans les pays, mais qui donne des points aussi entre le jury professionnel.
C'est ce que j'allais dire, on ne peut pas faire semblant que ça n'existera pas dans le
public.
Ouais, dans
le public, effectivement. Ça sera les deux. Après, l'Eurovision, le système de vote montre plus ou moins les gens qui vous suivent. Ils ne montrent pas les gens qui ont une forme de réticence.
On y viendra d'ailleurs parce qu'il y a des blocs, des blocs de vote aussi beaucoup. Une question pour vous, Julien Baldacchino, là-bas à Malmö. Le pays vainqueur doit organiser la cérémonie l'année d'après. On dit souvent, c'est ce que nous dit Maxime, on dit souvent que la France fait exprès de perdre pour ne pas l'organiser parce que c'est très coûteux. Est-ce que cette rumeur est vraie?
Alors, on le dit...
On a bon dos de dire que c'est ça la raison pour laquelle on perd.
non,
mais c'est vrai que c'est cher, par ailleurs.
C'est extrêmement cher à payer. Le pays hôte n'est pas le seul pays à financer, puisque tous les pays qui participent contribuent à l'UER, à l'Union Européenne de Radiodiffusion, qui finance l'Eurovision. C'est difficile à confirmer. Il y a des années où, effectivement, plus que d'autres, on se dit que ce n'est pas forcément une bonne idée de l'organiser l'année prochaine. Est-ce qu'on envoie volontairement au casse-pipe, pour le dire crûment, des artistes pour ne pas avoir organisé le concours? Je suis pas sûr. Par contre, la façon dont les artistes sont mis en avant, sont promus par le diffuseur, ça peut montrer qu'il y a un changement de paradigme et qu'on se dit que la chanson actuelle du candidat français Slimane, elle passe partout depuis 6 mois. Ça a été la première chanson de ce cru 2024 à sortir, tout pays confondu. Elle est matraquée en télé, en radio, un petit peu partout. Il y a une vraie volonté de la part de France 2, qui est le diffuseur de l'Eurovision, de faire connaître son artiste et de faire en sorte que on ait...
Mais
sinon des chances de gagner, au moins des chances de se faire reconnaître.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement le faire en France, mais le faire évidemment dans tous les autres pays, il y a un vrai boulot de lobbying qui est censé être fait par chacun des chanteurs pour se faire connaître, se faire aimer. Vous avez parlé d'argent, Julien Baldacchino, ce qu'il faut dire aussi, et moi je l'ai appris, pour ne rien vous cacher, grâce à vous, c'est qu'il y a les Big Five, c'est un peu comme quand on fait un safari, il y a les Big Five, ceux qui donnent le plus d'argent. C'est pour ça peut-être qu'on y participe peu, nous, à ce concours Eurovision, finalement, dans toute son intégralité, parce que quand on est la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, c'est quoi le cinquième ?
L'Allemagne.
L'Allemagne. On est de toute façon qualifié, on passe pas par les épreuves éliminatoires, parce qu'on donne plus d'argent en fait.
C'est ça, les pays, alors c'est pas strictement les fondateurs, mais les 5 plus gros financeurs sont qualifiés d'office, plus le pays hôte chaque année. Donc ça fait 6 pays, à moins qu'un des pays, un des Big Five, soit aussi le vainqueur de l'année précédente. Donc effectivement, l'enjeu est moindre. On sait que dans tous les cas, le samedi soir, le soir de la grande finale, notre candidat sera sur scène. Pour les 20 et quelques autres pays qui participent, ça varie un petit peu d'une année sur l'autre, il y a un enjeu. Il est tout à fait possible que, et ça va arriver, samedi soir, 10 pays qui ont diffusé l'Eurovision, qui vont le diffuser sans leur candidat. Mmh. Donc il y a un véritable enjeu, il y a des tournées de promotion. Mmh. Là-dedans, les fan clubs de l'Eurovision sont évidemment très actifs, mais Slimane, pour le cas français, a fait des télés en Pologne, il en a fait dans plusieurs pays pour faire de la promo et pour se faire connaître en amont du concours, parce que il y a quand même la moitié du résultat qui dépend du vote du public.
Bonsoir Neil.
Bonsoir.
Monsieur Ravi. Alors on ne va pas mentir aux gens qui nous écoutent, on se connaît. Et quand on a voulu faire une émission sur l'Eurovision, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est vous. On parlait, Neil, vous habitez au Luxembourg, donc grande année pour le Luxembourg. Votre pays de naissance, c'est le Danemark, donc vous êtes cerné par l'Eurovision, je vais le dire comme ça. Je disais que pour certains, c'était la Coupe du Monde. Et peut-être que ça nous échappe, nous, la France, en fait, que pour certains pays, c'est une Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, sincèrement, c'est à ça que ça ressemble?
Alors, pour avoir fait les deux, et l'Eurovision et la Coupe du Monde. Quand j'étais en France en 98, j'ai travaillé pour la Coupe du Monde. Donc, oui, je dirais qu'il y a un parallèle parce que c'est intense, c'est festif. La grosse différence, c'est qu'on se bat pas ou on s'insulte pas ou on n'est pas en dépression totale si son pays perd. Et d'ailleurs, l'Eurovision, c'est beaucoup mieux si on y va, pas pour faire gagner son pays. C'est pas pour ça qu'on va à l'Eurovision. À l'Eurovision, comme on est fan de l'Eurovision, on a des chansons qu'on aime bien, peu importe le pays. Et au moment où on comprend ça, je crois que l'Eurovision, c'est beaucoup plus sympa, quoi.
On n'est pas chauvin, alors, Neil, vous dites, quand on est fan de l'Eurovision, on n'est pas forcément chauvin.
Ah, pas du tout. C'est tout à fait normal de voir des fans d'un pays brandir le drapeau d'un autre pays parce qu'ils aiment bien cette chanson-là cette année-là.
On se moque beaucoup de la France parce que parce qu'elle pense toujours, on pense toujours qu'on va gagner. Nous, on est toujours à peu près persuadés que c'est bon, cette année c'est la bonne. Et ça dure depuis combien? Presque 50 ans, même plus que 50 ans maintenant.
1977.
Voilà, 1977. Peut-être que vous saurez nous expliquer pourquoi on ne gagne jamais, Neil, très sincèrement.
Mais ça rien. Je pense qu'il faut pas. Le problème, c'est qu'on dit dans les médias français, vous êtes en train de dire aussi cette année on va gagner. Pourquoi on gagne pas, etc. Il y a plein de pays qui gagnent pas. La France a quand même gagné plusieurs fois.
La dernière fois, c'était il y a longtemps.
Oui, mais pour plein de pays, il y a très longtemps aussi, quoi. Donc, voire pas du tout. Mais on n'y va pas pour. Il faut arrêter aussi de dire aux Français cette année on va gagner, parce qu'après les gens sont déçus et voilà, et après ils détestent l'Eurovision parce qu'on gagne jamais. Il faut y aller en disant on a une belle chanson, on pourra peut-être faire les top 10 cette année et puis basta. Moi cette année je vais pas y aller pour dire j'espère que le Danemark va gagner, ou moi je suis ravie que le Luxembourg revienne à l'Eurovision au bout de 31 ans. J'adore la chanson, mais je pense pas qu'on va gagner. Et moi, ma chanson préférée cette année, c'est la Croatie. Donc,
il y a beaucoup de gens visiblement qui votent Croatie parce qu'il faut dire qu'il y a des paris derrière, qui sont vraiment, qui sont très rarement totalement à côté de la plaque. J'ai une toute dernière question pour vous, Neil, quand même. Je voudrais savoir si vous avez, quand on est fan comme vous, est-ce qu'on a la crainte d'une compétition gâchée, d'un concours gâché, en fait, parce que la politique aura pris le dessus. Est-ce qu'il y a cette crainte là ou pas?
Oui, moi, ça a déjà été un peu gâché quand même, l'ambiance. L'année dernière à Liverpool, moi j'y étais, c'était fantastique. J'ai des potes qui sont en Suède maintenant, c'est vrai que l'ambiance est tendue, et c'est vraiment dommage, parce qu'on mélange deux choses qui n'ont rien à voir.
Merci,
Et voilà.
Merci beaucoup, merci vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est vrai que c'est très tendu cette année, c'est vrai que c'est un peu différent, Florent Parmentier. Et vous le disiez tout à l'heure, on parlait des votes qui vont dire des choses pour cette chanteuse qui est une jeune femme de 20 ans. Le vote par bloc, le vote politique, ça existe. Et ça se voit en plus, c'est très très visible. Hein,
ça existe et ça se voit en effet. On a eu plusieurs blocs. Les manières de l'expliquer en réalité sont très simples. Plus un État a des relations économiques, humaines, sur le plan de touristique, etc., plus l'affinité que vous allez trouver avec une chanson, avec un état d'esprit, en fait, seront assez assez fortes. Donc il y a différents blocs. Il y a les Nordiques.
Ah ouais.
On a parlé à un moment d'un bloc méditerranéen, bon, qui est peut-être un peu moins efficace. Un ou plusieurs blocs. Est-ce qu'il y a un bloc Europe de l'Est pris dans son ensemble, qui n'est pas totalement aussi évident que ça, ou est-ce que c'est plutôt... Ça a été un moment post-soviétique d'un côté,
c'est ça,
et,
ouais.
Et, après,
ouais.
Et post-yougoslave. Donc on a effectivement des logiques de vote qui apparaissent, qui peuvent s'expliquer de plein de manières différentes, mais qui sont empiriquement vérifiables, puisqu'on sait qui a mis 12 points. C'est toute la particularité.
Bien sûr, ouais. D'ailleurs, maintenant, on ne sait que ça, qui a mis les 12 points, puisque le reste se fait électroniquement, donc on le voit effectivement, mais c'est beaucoup moins scandé que ça pouvait l'être à un moment. Il y a une espèce de jeu entre Arménie et Azerbaïdjan, notamment, qui a déjà eu lieu, où chacun se met 0 point, de toute façon. Mais là aussi, et encore une fois, on revient un peu à la politique, mais l'Azerbaïdjan a gagné, une fois, si je ne m'abuse. Ça veut dire qu'il y a une Eurovision qui a eu lieu à Bakou.
Oui.
C'est compliqué d'expliquer que c'est un endroit absolument formidable, rempli de démocratie quand même, l'Azerbaïdjan. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
Ça clairement fait partie effectivement des contraintes qui ont été poussées auprès du comité d'organisation. Je pense que cette année-là, l'Azerbaïdjan a très certainement voulu montrer la meilleure image qui soit, donc nettoyer les quelques quartiers autour de là où s'organisait la compétition, essayer de montrer une bonne image. C'est après tout ce qu'essaie de faire cette diplomatie de l'image de marque nationale. C'est ce que font la plupart des pays à travers l'Eurovision. C'est ce qu'a fait précisément l'Azerbaïdjan cette année-là. C'était essayer de montrer l'image la plus moderne possible d'un État dont certaines critiques peuvent être légitimement faites.
Neil, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure sur WhatsApp, nous dit ceci. Pour Rémi, c'est notre auditeur précédent, et pour Fabienne, merci. 48% des chansons cette année sont partiellement ou entièrement chantées dans une autre langue que l'anglais. Comme quoi, voyez. Un dernier mot, Julien Baldacchino, avant de vous y laisser. Dites-nous quand même où on est, nous, dans les paris, alors, avec Slimane. On est loin, on a notre chance, comment ça se passe? Parce que moi aussi j'ai entendu que c'était la Croatie qui était en tête des pronostics.
Oui, la Croatie ramasse un petit peu tous les pronostics. Après ça bouge beaucoup d'une prestation sur l'autre, puisque là il y a effectivement les demi-finales, donc on découvre les prestations. Mais la France a quand même des chances de top 5, ce qu'on appelle de finir dans les
5. Si Nini nous écoute, elle doit se marrer là, mais elle a raison.
Qui existe, mais chaque année c'est pareil, chaque année on dit la France va gagner. Après la présentatrice suédoise a dit quelque chose de très drôle à la télévision mardi soir. Elle a dit effectivement la Suède a gagné 7 fois dans l'histoire de l'Eurovision, ça veut dire qu'elle a aussi perdu 56 fois.
Voilà.
Donc il y a vraiment quelque chose de chaque année on y croit, chaque année on pense que ça va le faire. Peut-être que cette année, ça va être la bonne. C'est très difficile à prédire, d'autant plus cette année où il y a, à mon avis, 4 ou 5 vrais candidats à la victoire.
Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi, je continuerai quand même à faire des notes et à appeler mon frangin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci vraiment pour cette émission avec nous. Je ne pars pas sans remercier Pierre de Certaines, Nathalie Poitvin et Lison Chambe à la programmation du 18-20 toute cette semaine. C'est Ludovic Asselot qui a assuré la réalisation. Fabienne Lemoal à la rédaction en chef. Gilles Gaillard et Florent Dorimini sont à la technique ce soir.